France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette semaine, c'est la philosophie d'un anti-philosophe que nous explorons, Blaise Pascal. Et aujourd'hui, c'est au Pascal politique que l'on s'intéresse. Si tant est que tout ne soit pas politique chez ce penseur. De la comédie sociale avec ses titres et ses honneurs, aux guerres d'ego et aux luttes de pouvoir, en passant par la force et la justice. Et si Pascal était avant tout un penseur politique, celui pour qui, et c'est à discuter, il vaut mieux vivre dans un monde arbitraire mais ordonné que vivre dans un monde vrai mais réel. Révolté.
Oui, ne faites pas ces jurons. Nous partons à Saint-Germain. Toute la famille royale nous suit.
Orléans, Longueville, Conti.
Ce sont des chiens. Mieux vaut leur crotte à Saint-Germain que leur complot dans Paris.
Avancez, vous
venez, Gaston. Nous allons dresser un plan de bataille pour affamer Paris.
Je crois y fait. Ma sœur et moi, nous rejoindrons la Fronde.
Princesse, je vous en prie.
La goutte et la guerre civile comme horreur, qui dit mieux?
Paris et les parlements se sont révoltés. Paris et les parlements seront châtiés.
Belle Châtillon, venez avec nous. Et que crèvent mon frère et Mazarin.
Majesté. Voici Paris. Nos armées vont tourner autour, comme des toupies, bouclant toutes les sorties. Dans un mois, parlement et bourgeois révoltés poufferont des rats. Oui, Majesté.
Et si toute la noblesse soutient le Parlement, qui sera bouffé?
Mon frère, le grand Condé.
Et qui sera ridiculisé? Vous, Majesté?
Conti, gentil Conti, votre langue a fourché. Un roi ne peut pas être ridiculisé.
Un mois de siège, Louis, et vous entrez ainsi dans Paris.
Et le Parlement soumis crie « Vive Louis !»
Vive Louis !
Bonjour, Pierre Guénantia.
Bonjour.
Bienvenue à nouveau, vous avez ouvert la semaine consacrée à Pascal. Vous êtes de nouveau avec nous aujourd'hui pour clore cette semaine consacrée à Pascal. Vous êtes professeur émérite de philosophie spécialisée en histoire de la philosophie moderne à l'Université de Bourgogne, chargé de cours à l'ICP, l'Institut catholique de Paris. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Divertissement pascalien, paru aux éditions Hermann. Et bonjour à vous, Gérald Svels. Vous êtes professeur honoraire de philosophie en classe préparatoire et docteur en philosophie politique. Sur Pascal, je peux citer votre ouvrage « Raison d'État » paru aux éditions Beauchesne. Alors, nous sommes en 1648, on l'a entendu dans cet extrait de Louis, l'enfant roi, c'est la Fronde. Pascal a 25 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est le début de sa pensée politique, que tout s'est joué à ce moment-là? Je le dis parce que cette semaine, on a parlé des conversions de Pascal, du jansénisme, voilà, du XVIIe siècle d'un point de vue peut-être théologique, mais qu'est-ce qui s'est passé politiquement qui a ouvert Pascal à la voie politique? Qui veut prendre la parole? Pierre Guénantia.
Peut-être, oui. Merci. Écoutez, il y a une chose qu'il faudrait peut-être dire, en tout cas en ce qui me concerne, dès le début, c'est que je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait une pensée politique de Pascal, mais qu'il y a chez lui, comme sur pas mal de domaines, une critique de domaines déjà constitués, déjà rationnels, déjà fondés, et une critique qui porte sur les fondations, justement. Et donc, au fond, ce que fait Pascal, d'une certaine manière, avant la lettre, hein, et il est dérivé avant la lettre, c'est une sorte de déconstruction, justement, de ce qui se donne pour édifice, pour bien fondé, pour rationnel. Et de ce point de vue, je crois que sa pensée, elle est beaucoup plus critique et destructrice, d'une certaine manière, que constructive. Au fond, il n'y a pas de solution chez Pascal. C'est de ça dont il faut toujours partir. Il y a des difficultés, il y a des contradictions, mais il n'y a pas de solution, du moins sur le plan où se situe ces contradictions.
Alors dites-nous tout de suite, Pierre Guénantia, pour pas ménager de suspense pour l'auditeur et l'auditrice, en quoi est-il critique? Qu'est-ce qui détruit Pascal?
À mon sens, il détruit les fondements. C'est-à-dire, il détruit l'entreprise. Commencé depuis déjà longtemps, mais surtout déjà au XVIe siècle, avec les penseurs du droit naturel, de fonder justement la société humaine sur des principes, disons, rationnels, comme le droit naturel, comme l'égalité, comme la souveraineté. Alors, tout cela est bien beau, mais d'une certaine manière, le sol craque. J'emploie une image qui est tout à fait pascalienne. C'est-à-dire qu'au fond, tout cela, c'est, pour employer un mot de Pascal aussi, c'est piperie. Paris. C'est-à-dire que c'est une manière d'afficher un ordre comme une façade, vous voyez, qu'on aurait ravalé, et derrière, ce serait vraiment extrêmement désordonné, déparé, etc. etc. Donc, je crois qu'il y a, chez lui, la critique porte sur lui, sur les fondements qu'on croit être ceux de la société. C'est une critique, au fond, voilà, des fondements, c'est-à-dire de la justification. Et au fond, on pourrait partir de cette idée que, d'une certaine manière, l'ordre politique, il est injustifié.
Ça, c'est une critique qui porte toujours...
Ah ben, bien sûr, qui porte ça.
Et, lire oui. Pascal, aujourd'hui, porte ses fruits, a un impact phénoménal sur la manière dont
mais
on considère la politique.
Mais bien sûr, si je peux encore ajouter un mot avant d'entendre Gérald, je dirais que, bon, c'est une opinion personnelle, hein, mais que, d'une certaine manière, le travail de sape que fait Pascal sur de l'ordre politique, ce travail-là, d'une certaine manière, va comme sous terre, comme vous voyez des lignes qui passent sous la terre et qui ébranlent longtemps après le sol, va donner au fond, je crois, enfin va provoquer la critique révolutionnaire. C'est-à-dire que la révolution n'a pas tant pour sol des fondements rationnels que la critique de l'ordre établi, et c'est-à-dire de son injustice.
Donc plus Pascal que Rousseau, finalement.
À supposer qu'il n'y ait pas du Pascal chez Rousseau.
Ah oui, c'est vrai. N'oublions quand même cette influence.
C'est-à-dire, voilà, quelquefois, les idées passent par des chemins complètement bizarres.
Gérald Sfez, je pense que vous voulez réagir sur ce que vient de dire Pierre Guénancier, et notamment sur cette idée, voilà, Pascal, penseur politique ou pas. Moi, je n'ai pas d'avis, mais je m'en suis rendu compte en présentant cette semaine que tout faisait quand même signe vers quelque chose de politique, de social chez lui. Alors, est-ce que ça fait de lui un penseur politique ? Dites-nous votre avis, votre approche, Gérald Sfez.
C'est-à-dire que il me semble que Pierre a tout à fait raison quand il dit que Pascal a sapé les fondements de la philosophie politique qui se donnait le politique comme l'enjeu majeur. Et sur tous les plans, le droit naturel, etc. Mais ceci dit, ce qui m'a semblé, pour autant que j'ai travaillé essentiellement sur l'œuvre de Machiavel, qui élabore une pensée du moindre mal, ce qui m'a semblé dans la pensée de Pascal, c'est que son projet est en même temps un projet de vigilance sur le politique et de devoir d'ordonner cet univers qui est celui de la piperie, de telle façon que cela aille au moindre mal, mais de telle façon, de manière à faire que le déraisonnable devienne raisonnable alors qu'il part du dérèglement des hommes.
Donc il y a quand même un geste pour vous
Il y a un geste, et ce geste est fondé non plus sur une pensée des fondements, mais sur une pensée des ordres.
Mais est-ce que ça suffit à fonder une pensée politique ? Voilà.
Je pense que oui, pour autant qu'il y a une conception d'une hiérarchie des ordres, et à l'intérieur de l'ordre politique, une diversité des ordres, dont l'enjeu majeur est qu'il faut en respecter la non-interférence et la non-interversion. C'est-à-dire qu'un ordre supérieur n'a pas de pouvoir sur l'ordre inférieur, et qu'en même temps, chaque ordre doit suivre ses propres procédures sans qu'il y ait justement d'empiètement de l'un sur l'autre, ni d'usurpation, c'est-à-dire de la tyrannie.
Voilà, donc, exemple forte, de ces ordres.
Pour moi, il y a une pensée forte de la tyrannie.
Ah oui, très intéressant.
Ces ordres, évidemment, la conception des ordres, elle est générale chez Pascal, entre l'ordre de la charité, l'ordre de l'esprit et l'ordre de la chair. Mais dans le domaine du politique, il y a des ordres, et ces ordres ne sont pas des ordres institués comme la royauté, la république, etc. Ce sont des ordres de relations appropriées. C'est pour ça que j'avais écrit un texte sur les devoirs de justice, où Pascal développe avant cette idée que la tyrannie est le désir de domination
hors de son ordre.
Comme lorsque celui qui dit « je suis fort, donc tu dois m'aimer ». Ce qui veut dire qu'il y a un rapport approprié. Je suis fort, donc tu dois me craindre. Évidemment, il ne peut pas être dit, et il est totalement déraisonnable. mais il est approprié. C'est-à-dire qu'il n'est pas de l'ordre d'une violation de l'ordre. Tandis que je suis fort, donc tu dois m'aimer, est inapproprié.
Parce que l'amour et la justice, là, n'ont rien à faire. Ou le devoir et l'amour n'ont rien à faire ensemble, c'est ça ?
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, plus exactement, il y a différents mérites qui tiennent à ce que la relation d'amour ne peut pas être commandée par la force. Et la relation de crainte est commandée par la force. Mm-hmm. Alors, et chaque ordre voudrait être l'ordre de tous les ordres. Et de ce fait, le risque, parce qu'au fond, par la force, on n'obtient pas l'amour. Le risque, c'est la guerre civile, c'est-à-dire la guerre des ordres.
Le pire de tous les maux.
La guerre des ordres.
Alors justement,
et en ce sens, je pense que cette pensée de la guerre des ordres est très importante. Et je dirais, pour terminer, que l'autre aspect, c'est que si par exemple il cite Montaigne, etc., il en donne chaque fois une autre version.
Ah oui, bien sûr.
Et c'est cette autre version qui est, me semble-t-il, très intéressante. Mais évidemment, on n'est pas dans le monde de la vérité.
Alors, vous avez dit, Gérald Suez, guerre des ordres, contrer, prévenir la tyrannie, mais ni l'un ni l'autre n'a répondu à ma question. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Fronde ? En quoi le contexte historique, politique, a peut-être influencé Pascal ? Est-ce qu'il le dit ? Est-ce qu'il ne le dit pas ? Est-ce qu'on le suppose ? Voilà, Pierre Guénoncia.
Il y a des allusions, oui, à la Fronde. Il y a des allusions dans les provinciales ou dans d'autres textes aussi. Et je crois que pour Pascal, c'est... D'accord, pour Descartes aussi, quoique sur une autre modalité, sur un autre ton, je crois que c'est justement le signe du désordre. C'est-à-dire que il y a deux types de désordre. Il y a un désordre installé, et au fond, qui passe comme un passage à la limite, il devient un ordre. Et il y a un désordre... présent et brutal et visible et qui justement prétend se substituer au désordre précédent et qui en fait est une aggravation. Et au fond la pensée de Pascal, je reprends ce que disait Gérald sur Machiavel, c'est une pensée du moindre mal, c'est-à-dire au fond mieux vaut un désordre établi depuis longtemps et qui peut passer pour ordre qu'un désordre manifeste et dont on ne sait pas de quoi il peut être justement la prémisse. Donc de ce point de vue, je crois que la pensée, là aussi la pensée de Pascal, c'est une pensée des niveaux, c'est une pensée des différentielle d'une certaine manière. C'est pas une pensée de la chose même. Et c'est pour ça que je suis un peu, en désaccord amical avec ce que vient de dire Gérald sur les ordres. D'une part, je pense pas qu'il y ait une guerre entre les ordres. Je crois qu'il y a une distinction des ordres et un respect justement de la grandeur de chacun. D'une part, et d'autre part, je ne pense pas non plus qu'il y ait un ordre de la politique. Je crois qu'il y a, ça c'est indiscutable, un ordre de la chair, c'est-à-dire du corps, de la chair, de toutes les grandeurs, dans lequel entre la politique. C'est-à-dire que la politique n'a pas d'autonomie par rapport à d'autres choses comme...
comme l'esprit ou comme la
non,
charité.
Pas, non, n'a pas d'autonomie à l'intérieur de l'ordre de la chair, c'est-à-dire que ça fait partie de l'ordre de la chair. La politique, c'est une affaire de chair, si je puis dire, c'est-à-dire de concupiscence, de désir, de domination, de désir de domination. C'est ça le premier ordre. C'est la libido saint-Yandi, et c'est la libido dominandi aussi. Donc c'est le désir de dominer. Et au fond, Pascal comprend la politique, et c'est très curieux, parce que nous, modernes, si je puis dire, je le suis, nous, au XXe siècle, à l'époque qui fut celle de ma jeunesse, au fond, on a retrouvé cette idée-là, c'est-à-dire, au fond, la critique de la domination, la critique de l'usurpation.
Mais ce qui est fou, c'est non seulement la portée de Pascal, mais c'est surtout, en fait, cette idée de l'ordre et du désordre.
Oui.
À défaut, peut-être, d'une pensée politique en tant que tel, c'est un penseur de l'ordre, des ordres. Mais est-ce que, parce qu'on en a parlé...
Vous n'êtes pas un penseur de l'ordre, excusez-moi.
Des ordres, on en a parlé lundi, oui. Pierre Guénoncia, sur ces trois ordres, chair, esprit, et charité. Mais est-ce que c'est pas un peu une sorte d'astuce, d'artifice théorique pour dire ces choses-là sont hétérogènes, n'ont rien à faire ensemble, et puis la politique fait partie de la chair, on va essayer de la régler, mais surtout, en fait, de toute façon, ça m'intéresse pas trop parce qu'on pourra rien y faire.
Oui.
Vous trouvez pas que c'est pas peu ambitieux de la part de Pascal? Gérald Suez?
Oui, moi, je pense que, au contraire, enfin, moi, je suis d'accord avec ce que dit Pierre, mais il y a un point qui me semble très important. C'est d'abord par rapport à la question que vous aviez posée au début, c'est-à-dire le plus grand des maux est les guerres civiles. Mm-hmm. Ça, c'est le contexte.
Donc la fronde qui attaque la régence d'Anne d'Autriche, c'est un mal.
Le contexte,
mal.
C'est la paix intérieure, mm-hmm. C'est pas la paix extérieure, c'est la paix intérieure. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une conception d'un certain ordonnancement. Alors, quand je dis une guerre entre les ordres, je veux signaler le fait que Pascal a toujours dénoncé la tyrannie. On va voir le texte sur force et justice, mais il a toujours dénoncé la tyrannie à plusieurs niveaux. D'une part, dans ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, à savoir la tyrannie, c'est l'empiètement d'un type de rapport sur un autre type de rapport. D'autre part, il nous dit, dans les pensées, que l'égalité n'est pas possible parce que justement la force l'emporte, etc. Mais il est nécessaire qu'il y ait de l'inégalité parmi les hommes. Cela est vrai, je cite, mais cela étant accordé, voilà la porte ouverte non seulement à la plus haute domination, mais à la plus haute tyrannie. Il y a donc une vigilance vis-à-vis de l'extrême. C'est pour ça que je dirais que ce n'est pas un penseur qui a fondé le politique, mais c'est un penseur dans la lignée d'un criticisme du politique. Et c'est ce criticisme de politique où il essaye de marquer des limites et des différences de régime et de teneur des choses qui me semble extrêmement intéressante.
Ce qu'a dit effectivement Pierre Guénantia, et vous vouliez peut-être me répondre, Pierre Guénantia, sur la question des ordres et de l'ordre. C'est pas la même chose, c'est pas critiquer, ça n'est pas seulement... Parce que ça peut sembler peu ambitieux.
Oui, le seul ordre légitime, c'est le fait de respecter la distinction entre les ordres. Mais c'est un ordre formel, c'est un ordre conventionnel, c'est presque déontologique. Ça n'a rien de substantiel, cet ordre-là. Et au fond, je crois que le problème de Pascal, c'est d'une certaine manière la déconstruction de ce qui se donne comme ordre, alors qu'au fond c'est un désordre. La déconstruction de ce qui se donne comme charité, alors qu'au fond c'est haine et hostilité mutuelle. Voilà, c'est montrer le dessous des choses, mais le recouvrir aussitôt ce dessous des choses, justement, afin que le peuple, comme il dit, ne prenne pas prétexte à une contestation qui engendrerait un désordre encore plus...
Encore pire.
En fait, c'est une pensée qui s'étrangle elle-même, parce que sa critique se retourne contre elle, d'une certaine manière. Et c'est ça qui fait le tragique de la condition de pensée pascalienne. Et c'est ça qui fait aussi peut-être sa grandeur et le fait qu'il échappe aux divisions politiques habituelles. Et il ne peut se retrouver que dans une ligne de critique. Par exemple, la critique sociale. C'est pas étonnant qu'un penseur comme Bourdieu, par exemple, ait trouvé au fond presque son identité philosophique, si je puis dire, dans Pascal, en écrivant les méditations pascaliennes. Parce que c'est aussi... Bourdieu, il construit pas une théorie politique. Il critique tout ce qui se donne comme justement valable ou valide ou légitime.
Et il essaye d'en révéler les dessous, mais en même temps de nous... Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour Bourdieu, mais en tout cas pour Pascal, de nous les faire accepter. Oui. Voilà, d'être d'accord avec ça. J'aimerais qu'on écoute un fragment, un des plus connus en fait des pensées de Pascal. C'est le fragment 103 dans l'édition L'Affumage, le précise. Évidemment, c'est le fragment sur la justice et la force.
Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, on n'a pas pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste. Et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fut juste.
Je pense qu'on pourrait passer des heures à décortiquer ce fragment de Pascal, fragment très connu, la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Déjà une première question à vous deux, pourquoi Pascal postule qu'il n'y a pas de justice naturelle, qu'il a fallu faire que quelque chose soit juste? Pourquoi? Pourquoi il se dit ça, Pascal? Sur quoi il se base pour dire ça, Pierre Guénantia?
Je ne crois pas qu'il pense qu'il n'y a pas de justice naturelle. Il pense qu'il y a une justice naturelle, mais que cette justice, du fait de la corruption des hommes, elle est voilée, elle est masquée, elle est pour ainsi dire dissimulée. Bon, voilà. Et que de ce point de vue, on ne peut pas la restituer, ni même se référer à elle. En revanche, on en a une idée confuse. Et c'est cette idée confuse qui nous permet de critiquer ce qui se donne comme juste alors que ça ne l'est pas. Mais c'est seulement une idée confuse, c'est-à-dire que ce n'est pas une solution de substitution. Ce n'est pas voilà, ce qu'est la justice, et aujourd'hui on voit l'injustice, on va remplacer l'une par l'autre. Non, pas du tout. La vraie justice, c'est une idée confuse qui nous permet justement de ne pas confondre la justice apparente, la justice mondaine, la justice des hommes, avec elle.
La justice,
justement.
On pourrait dire institutionnelle.
La justice institutionnelle, la justice établie, pour parler comme Montaigne. Hein, voilà,
c'est... voilà, la justice établie, ouais. Et d'ailleurs on va parler aussi des grandeurs d'établissement. Gérald Sfey, sur cette question.
Je pense que, en effet, Pascal considère qu'il y a une loi naturelle, mais qu'elle est corrompue. Voilà. Enfin, les hommes n'y ont pas accès. Il pense par contre que il y a différents droits. Enfin, différents droits, différentes justices, formes de justice, c'est-à-dire formes d'établissement, et que ces différentes formes d'établissement, entre ces différentes formes d'établissement, le plus sûr, c'est la coutume, c'est de suivre la coutume. Et c'est-à-dire, au fond, il y a une destitution de la justice humaine, je veux dire, au profit de la loi. Laquelle loi est loi et rien davantage. C'est-à-dire qu'elle est ce qui est établi et ce qui compte, c'est ce statut. Je dirais que Pascal essaye de penser, compte tenu de cette situation, qu'est-ce qui permet... d'interdire le pire.
Et je pense qu'il y a... Oui, le moindre mal, quoi. Oui,
voilà. Le moindre mal, mais
il ne faut pas chercher une pensée positive du politique.
Moi, la question que c'est que, ok, on fait une différence entre justice naturelle et justice établie, mais qu'est-ce qui fait qu'on va obéir à la justice établie si on a une idée de la justice naturelle? Et est-ce que cette justice établie, est-ce qu'elle est pour autant injuste? Qu'est-ce qui fait qu'elle a ce terme de justice au-delà de l'établissement? Voilà, il y a deux questions. Pierre Guénantia.
Elle est injuste, oui, elle est injuste d'une manière absolue. Elle est juste d'une manière relative, c'est-à-dire elle est juste si juste, comme un moindre mal, c'est au fond ce qui empêche le désordre. Il y a des lois, bon, on sait qu'elles ne sont pas justes, mais au moins, elles maintiennent la paix dans la société. Et c'est au fond, là aussi, un moindre mal. Mais la critique, d'une certaine manière, demeure toujours acide, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que... Parce que si on pensait qu'il y avait une vraie justice, qu'il y avait une société humaine rationnelle, etc., au fond, on s'en trouverait bien. Et d'une certaine manière, il n'y aurait pas d'inquiétude pour autre chose. Or, tout le but de Pascal, c'est justement de fomenter l'inquiétude de l'homme, de montrer que justement que rien n'est vraiment établi, rien n'est vraiment juste, rien n'est vraiment vrai, si je puis dire, et que par conséquent, il faut tourner, il faut tourner son regard vers des choses qui sont, elles, vraiment vraies, qui sont vraiment justes, d'une justice essentielle, d'une vérité...
Et pourquoi ça ne se passerait pas au niveau de la politique ? Pourquoi, en fait, se tourner vers le vraiment vrai, bah, oui. C'est pas aller vers... Eh ben voilà, Pierre Guérancia, vous me dites, oui.
Pourquoi
lui, Pascal, se dit pas, puisque c'est une pensée, effectivement, du moindre mal, ouais. Pourquoi il ne voudrait pas proposer une pensée du vraiment bien?
Oui.
En politique.
En politique, non. Parce que la politique, non,
mais c'est justement, c'est voilà. Question, ben ouais. Voilà, pourquoi ouais. Il abandonne ouais. La politique en disant on va se tourner vers un autre domaine qui sera celui du domaine voilà de la charité, oui, de la voilà, sagesse. Ouais. Pourquoi il abandonne ça alors qu'en fait ça pourrait être un... Alors peut-être que c'est une mauvaise question à poser à Pascal, ça l'intéresse pas. Mais pourquoi? C'est pour non. Défendre l'Église? C'est parce qu'il y croit?
C'est pas l'Église.
C'est parce qu'il est cynique sur les hommes?
C'est pas l'Église, c'est la foi.
Oui, la foi, oui.
C'est la foi, c'est pas l'Église.
Gérald XVI. Ouais.
Je ne pense pas du tout... oui, c'est une très bonne question. Je ne pense pas du tout que ce soit une pensée cynique.
Ah oui, non, bien sûr.
Et il me
ah
semble
bon
que, il me semble, non, oui, non, il me semble que ce qu'il
cynique,
a essayé de...
Une pensée critique.
Ce qu'il a essayé de montrer, c'est précisément que ceux qui prétendent instaurer la vraie justice font pire. Et par conséquent, il y a négativement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est contester l'ordre tant que cet ordre respecte un moindre mal, mais tant qu'il le respecte. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs c'est très curieux de remarquer ceci, c'est-à-dire que la politique est définie comme le moindre mal, modérer la folie au moindre mal qu'il se peut, mais en même temps, il y a un souverain bien dans la politique, c'est la paix. La paix est le souverain bien.
Le souverain bien.
Il y a un souverain bien qui, dans son ordre.
Oui, mais
il y a un souverain bien dans son ordre qui est précisément cette à l'intérieur du corps social. Alors, il faudrait parler...
Non, c'est sur la notion de souverain bien. Je pense que c'est assez polémique, en fait. C'est-à-dire, quand il dit la paix, c'est le souverain bien, dire, au fond, voilà, les philosophes cherchent un souverain bien qui soit vraiment un souverain bien, et moi, je vous dis, non, le souverain bien, c'est la paix. C'est-à-dire, c'est la tranquillité, c'est voiler les problèmes et les conflits, et c'est vivre d'une certaine manière comme si ça n'existait pas. Vous savez, on n'a pas cité ça, mais il y a les fragments magnifiques sur les trois... Non, pas les trois ordres, mais les trois types de gens. Le peuple, les demi-habiles et les habiles. Le peuple croit ce qu'on lui dit. Il est crédule. Et c'est une bonne chose qu'il soit crédule, parce qu'il n'a pas les moyens de d'être autre chose que crédule. Bon, c'est un peu cynique, ça. Ça, c'est possible. Mais il y a les demi-habiles. Alors, ceux-là, ils sont très, très, très drôles, c'est les demi-habiles. Enfin, plus exactement, ce qui est très drôle, c'est la manière dont Pascal les comprend. C'est-à-dire, c'est des gens qui voient qu'il y a de l'injustice et du désordre, et qu'ils disent... Attention, nous, on va apporter la solution à ce désordre et à cette injustice. Autrement dit, il voit une chose et il n'en voit pas une autre qui annule ou balance la deuxième. Alors que les gens qui sont vraiment habiles sont des gens qui ont la pensée de derrière, comme dit Pascal, et ça c'est quelque chose de fondamental dans la pensée pascalienne, c'est cette idée d'une pensée de derrière. C'est-à-dire, c'est pas une arrière-pensée, la pensée de derrière. La pensée de derrière, c'est une pensée tournée vers un autre côté que le côté du visible. Et l'habile, il voit l'invisible, si je puis dire. C'est-à-dire, il voit ce qui pourrait se passer si le peuple prenait les armes, se révoltait, descendait dans la rue et contestait dans la... Ce serait pire.
Mais pourquoi il se dit ça, Pascal? Il a connu la Fronde, mais pourquoi il ne se dit pas que changer les choses, ça peut aller vers le mieux? Parce qu'il connaît les hommes. Gérald Sfès, sur cette question de... Voilà, OK pour le moindre mal, moi je comprends, mais je le redis, c'est une pensée qui peut paraître peu ambitieuse, qui a des côtés quand même des côtés cyniques et une dimension de résignation, c'est-à-dire on ne peut pas agir dans la politique, les hommes sont ainsi, tournons-nous vers autre chose, ayons une pensée de derrière. Et d'ailleurs, je suis sûre que Pierre Guérancia ne va pas être d'accord avec moi, parce que depuis tout à l'heure, il me dit non. mais est-ce que Pascal lui-même n'est pas un demi-habile, puisqu'il écrit dans ses pensées que lui sait, et il le dit en l'écrivant. Donc il fait partie quand même de ces gens qui savent et qui le disent au lieu de se taire.
Oui, mais c'est pas forcément lu, ça doit pas forcément être lu par tout le monde. En plus, ce sont des brouillons, donc c'est pas un livre achevé. On sait pas du tout ce qu'il aurait fait s'il avait été jusqu'au bout de son projet. On sait pas du tout. Donc je crois pas qu'il soit un demi-habile, justement. Il serait plutôt, et d'ailleurs à tout point de vue, plutôt du côté des habiles. C'est-à-dire.
J'espère bien, si vous l'aimez, vous allez le voir comme un habile.
C'est-à-dire de ceux qui savent mais qui se taisent. C'est-à-dire et qui se taisent parce qu'ils savent que si on parlait, on dirait quelque chose de beaucoup plus... qui serait mal entendu, mal compris.
Je crois que je tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais en fait, ma question, ce que j'ai dit peu ambitieuse, mais je crois qu'en fait, c'est est-ce que Pascal, il n'est pas un peu lâche?
Ah
Ah, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord.
Ah non, moi non plus. Donc on est deux d'entre vous.
Donc Gérald Fès.
Oui, je pense qu'il y a, effectivement, lorsque, je suis d'accord avec ce que dit Pierre, lorsqu'il parle, Pascal parle du souverain bien, la paix qui est le souverain bien, dans un passage, il dit 289, les philosophes, 289 souverains bien. Oui. Donc il y a une ironie à l'égard du terme de souverain bien. Mais je crois que ce qui est intéressant et ce qui fait que ce n'est pas une pensée cynique, c'est qu'il montre... que, notamment dans le rapport justice-force, que ce sont deux éléments tout à fait hétérogènes. L'un renvoie à une qualité spirituelle et l'autre à une qualité palpable et incontestable. Et que si on allie l'une avec l'autre, c'est mettre ensemble des choses qui ne vont pas ensemble, de toute façon. C'est-à-dire que si la justice se donnait la force, elle serait injuste, d'une certaine façon. Mais on choisit le pire, c'est que la force se donne la justice. Et donc j'ai une réponse partielle par là à votre question, à savoir que si la justice se donne la force, elle serait injuste. Et ça, c'est bien la politique.
Oui, pas forcément. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça.
C'est-à-dire qu'il y a bien... Il y a bien, me semble-t-il, dans la pensée de Pascal, une idée du légitime et du illégitime. Si on se rapporte, par exemple, je voudrais terminer sur ça, à la question de la paix. Il nous dit « la paix est le souverain bien ». Mais c'est interne. Parce que lorsqu'il parle de la paix dans le fragment 974, il nous dit, justement... la paix n'étant juste et utile que pour la sûreté du bien, elle devient injuste et pernicieuse lorsqu'elle le laisse perdre, et la guerre devient juste et nécessaire. Mmh. Et voilà qu'il reprend mot pour mot la phrase de Machiavel et celle de Tite-Live. Et la guerre devient juste et nécessaire lorsque le bien est en danger. Et par conséquent, et il ajoute évidemment la parole christique, Jésus-Christ a dit « je suis venu apporter la paix et la guerre », et tandis qu'il n'est pas venu dire « je suis venu apporter la vérité et le mensonge ». Il y a donc bien une vérité de la relation... De la relation. C'est pour ça que la critique du politique ne peut pas être séparée, d'une idée du rapport le plus juste qui est le rapport vrai, et en même temps d'une mise en question de la vérité même. On se fait une idole de la vérité même. Et ce qui ne veut pas dire, ajoute-t-il, qu'il n'y a pas une plus grande idole que ce qui est celle du mensonge. Et donc il y a bien une critique qui va au-delà de la politique, qui porte sur la question même de la vérité, et qui fait qu'au fond, c'est un peu abyssal la pensée de Pascal.
Ben c'est un gouffre.
De ce point de vue. Un gouffre, non, parce qu'il nous dit exactement...
Alors, en tout cas, le moi est un gouffre.
Le
moi est un gouffre.
Ah, le moi est un gouffre, mais l'idée... Qui, le moindre mal, ce n'est pas simplement quelque chose de modéré. C'est bien un non-désordre possible. C'est bien une organisation possible. Et au fond, en sachant de toute façon qu'étant donné la corruption des hommes, c'est pour ça que moi j'ai tendance à attendre la corruption des hommes, évidemment... Il a du mal lui-même à être respecté. J'ai tendance à penser que si la pensée de Pascal est totalement liée à une pensée religieuse, elle nous instruit indépendamment de cette pensée religieuse.
Ah, bien sûr.
Et elle nous instruit de telle manière qu'elle nous met en garde contre les illusions des demi-habiles qui mentent au peuple ou qui s'imaginent. Et au fond, et c'est vrai qu'elle nous dit qu'il n'y aura pas de justice sur Terre. Je ne sais pas s'il y en a une après, mais sur Terre, non.
Elle nous met en garde sur les illusions, mais elle nous dit quand même de vivre avec. C'est ça qui est aussi, en fait, intenable.
De s'en accommoder.
Voilà, on s'en accommode. Mais par exemple, vous avez dit, Gérald Fès, que la force et la justice sont deux domaines hétérogènes, mais dans le texte qu'on a entendu, Pascal nous dit, il faut donc mettre ensemble la justice et la force. Et il dit, on a fait que ce qui est fort fut juste. Donc, même si ces deux domaines hétérogènes, eh ben, on doit quand même se contenter de l'idée qu'on doit les mettre ensemble et qu'on fait quelque chose, comme si Pascal sous-entendait que « on a fait que », c'était forcément une forme d'usurpation, oui. faute de oui, mieux. C'est ça. Voilà, mais, oui, mais c'est ça. Comment peut-on avoir envie de vivre dans l'usurpation? Vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de continuer à vivre quand on lit Pascal là-dessus, vous voyez?
Quand on tourne la tête vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus vrai, et c'est en ce sens que Pascal est quelqu'un qui veut mettre la guerre dans l'esprit des gens, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils ne se s'endorment pas sur le mal oreiller, comme dirait Montaigne.
Et donc c'est pas de la résignation ni de la lâcheté de ce point de vue.
C'est de l'inquiétude, c'est presque de la guérilla, quoi, vous voyez, au sens idéologique. C'est-à-dire, c'est inquiéter les gens, c'est faire en sorte que ça bouge. Mais ce n'est pas des armées qui s'affrontent, ce n'est pas une thèse contre une autre, ce n'est pas une philosophie contre une autre. Et c'est pour ça que je crois que le fragment qu'on cite là, il est construit un peu comme un syllogisme. C'est-à-dire, au fond, voilà une thèse, voilà une antithèse, et voilà la conclusion. Mais la conclusion, c'est justement que la justice n'est pas possible, puisque ne pouvons faire que ce qui est juste. On a fait que ce qui est... Cette interversion, cette perversion, d'une oui, certaine manière, de l'ordre, hein, fait que, voilà, nous vivons dans la perversion. Alors, la question est de savoir si, d'une certaine manière, on ne peut pas trouver mieux, si peut-être le fait de la conscience de cette perversion ne nous fait pas signe vers quelque chose qui soit, même si on n'en a pas l'idée au sens d'une représentation bien claire et distincte, quelque chose qui soit justement autre.
Alors, on va écouter un autre texte de Pascal, un texte exclusivement, enfin en tout cas, voilà, plus porté sur la politique, plus clairement explicite sur la politique, c'est les trois discours sur la condition des grands.
Il y a dans le monde deux sortes de grandeurs, car il y a des grandeurs d'établissement et des grandeurs naturelles. Nous devons quelque chose à l'une et à l'autre de ces grandeurs, mais comme elles sont d'une nature différente, nous leur devons aussi différents respects. Aux grandeurs d'établissement, nous leur devons des respects d'établissement. Il faut parler au roi à genoux. Il faut se tenir debout dans la chambre des princes. C'est une sottise et une bassesse d'esprit que de leur refuser ces devoirs. Mais pour les respects naturels qui consistent dans l'estime, nous ne les devons qu'aux grandeurs naturelles. Et nous devons au contraire le mépris et l'aversion aux qualités contraires à ces grandeurs naturelles. Il n'est pas nécessaire, parce que vous êtes duc, que je vous estime, mais il est nécessaire que je vous salue. Si vous êtes duc et honnête homme, je rendrai ce que je dois à l'une et à l'autre de ces qualités. Je ne vous refuserai point les cérémonies que mérite votre qualité de duc, ni l'estime que mérite celle d'honnête homme. Mais si vous étiez duc sans être honnête homme, je vous ferais encore justice. Car en vous rendant les devoirs extérieurs que l'ordre des hommes a attachés à votre naissance, je ne manquerai pas d'avoir pour vous le mépris intérieur que mériterait la bassesse de votre esprit. Voilà en quoi consiste la justice de ces devoirs. Et l'injustice consiste à attacher les respects naturels aux grandeurs d'établissement, ou à exiger les respects d'établissement pour les grandeurs naturelles.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mosna-Savoie.
Grandeur d'établissement et grandeur naturelle, on a presque l'impression, en écoutant ce texte lu par Nicolas Berger, extrait, je l'ai dit, des trois discours sur la condition des grands, qui date à peu près de 1660, que Pascal nous donne presque un cours. Hein, c'est un manuel pour bien se comporter en société. Voilà, moi, ça me fait penser, par exemple, à un rendez-vous que j'aurai avec ma direction. Donc, je salue ma direction, non parce que je les trouve honnêtes ou estimables, mais parce que je leur dois le respect. Est-ce qu'on peut le lire comme ça, voilà, comme un manuel de bonne tenue?
Non, moi, personnellement, non, je dirais pas. C'est pas un mode d'emploi. Hein. C'est pas une question déontologique, simplement. Une façon de se comporter. Je crois pas. Je crois que c'est un texte beaucoup plus corrosif que ça, qui va beaucoup plus au fond des choses que cela. Et c'est là où on voit qu'au fond, la politique, elle rentre dans aucun des trois ordres qu'on a dit. Mais en revanche, il y a une opposition, une distinction très forte entre un ordre institué par les
hommes et un ordre qui ne l'est pas, c'est-à-dire un ordre naturel. Et cette opposition entre naturel et institution, en un sens, elle reprend peut-être à sa manière l'opposition entre le droit naturel et le droit positif, hein, mais à sa manière, c'est-à-dire que Pascal ne va pas parler de droit, il va parler d'ordre de choses. Et en opposant d'une certaine manière la nature et l'institution, bah écoutez, il ouvre une brèche énorme pour justement dénoncer un pouvoir ou des pouvoirs qui ne sont fondés que sur la convention ou sur le hasard, comme il le dit aussi, et qui voudraient passer pour des vrais pouvoirs, c'est-à-dire naturels. Le roi ne veut pas être simplement estimé parce qu'il est roi, il veut être estimé parce qu'il est lui.
Pour sa personne.
Hein, oui, c'est son moi.
Donc, oui, effectivement, c'est extrêmement corrosif parce que de ce point de vue-là, ça ne s'adresse pas qu'au sujet, d'une certaine manière, de la politique, mais aussi aux gouvernants.
Bien sûr, mais c'est un discours sur les grands.
Voilà, sur les grands. Discours, donc, soyez vous-même conscient.
C'est un discours qui est fait à un fils de duc pour justement. En ce sens, vous avez raison, c'est un manuel.
C'est le futur duc de Chevreuse, voilà, Charles-Honoré d'Albert.
C'est ça. Donc, Pascal lui donne des conseils, au fond, pour se tenir à distance de sa fonction. Mmh. Pour être ne pas s'y croire, quoi, d'une certaine manière,
ouais, hein, pour pas prendre la confiance,
ne pas s'y croire, ne pas considérer que, enfin voilà, c'est lui quoi, et puis c'est parce que c'est lui que les gens lui obéissent, etc. Non, c'est une fonction. Et au fond, la fonctionnalisation de l'ordre politique, en un sens, en destitue la légitimité. Parce qu'au fond, c'est légitime si on veut, mais c'est légitime dans un ordre très restreint, qui est l'ordre de l'établissement. D'où cette opposition entre l'institution et le... Alors, le texte n'est pas écrit vraiment par Pascal. C'est Pierre Nicole qui l'a écrit.
Qui a remanié les notes de Pascal.
À partir de l'audition de ce discours. Mais il est encore plus pascalien qu'autre chose. Moi, je trouve que c'est un texte magnifique, ces trois discours. Je vous donne toute la philosophie politique pour ces trois pages.
C'est vrai ?
Ah oui, absolument, oui. Oui, parce que
je trouve qu'elles vont... Rousseau. Platon,
en un sens, Rousseau, c'est le désir de reconnaissance. Tout est là, d'une certaine manière. Tout est dans ce, mais comme chez Pascal, c'est-à-dire c'est un concentré. C'est pas dilué, vous voyez.
Oui, enfin, tout est là, si tant est qu'on soit d'accord sur l'anthropologie pascalienne, d'une certaine manière.
Même si on l'est pas. C'est pour ça que je pense que c'est un texte à vocation universelle. Même si on ne l'est pas, même si on n'a pas cet horizon eschatologique qu'il y a derrière toutes les pensées pascaliennes, je pense qu'on se servir de ces... Regardez, par exemple, qui s'en sert, même s'il ne l'a pas lu, la distinction kantienne, au fond, entre mon corps respecte, enfin, je m'agenouille devant un prêtre, mais mon esprit ne s'agenouille pas. Bah, c'est la même chose.
C'est le genou qui s'agenouille.
Vous savez, on en parlait l'autre jour sur le cœur, c'est la machine, au fond.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que la machine prenne le relais de l'esprit et qu'on s'agenouille d'une manière machinale et automatique et pas d'une manière consciente, volontaire et adhérente.
Et puis surtout, il y a cette idée quand même que tout est presque double chez Pascal. Je ne dis pas double au sens de duplicité mais vraiment, en fait, de se dire, voilà, il y a ce qu'on fait quand on vit en société, il y a le fait de la comédie sociale, la piperie, et puis il y a le fait de le savoir,
voilà.
et effectivement de se dire qu'il y a autre chose ailleurs. Gérald Sfès, sur ce texte, avec effectivement grandeur d'établissement et grandeur naturelle, il y a des grandeurs naturelles, mais ça n'est pas celle-ci qu'on va honorer lors des grandeurs d'établissement.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Pierre, c'est-à-dire que c'est un texte qui a une valeur vraiment universelle et qu'on peut tout à fait abstraire du corpus pascalien dans son ensemble. La distinction des grandeurs qui renvoie précisément à ce dont vous avez parlé, à savoir l'existence d'une double pensée à l'intérieur du sujet et d'une sorte d'un espace intérieur qui a une distance qui fait que le moi ne peut pas s'identifier à une de ses qualités. C'est aussi cela qui est présent. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que en même temps, dans le même temps où on doit avoir des respects d'établissement, des respects d'établissement pour les grandeurs d'établissement, il ne faut pas attendre des respects d'établissement pour les grandeurs naturelles. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que, au fond, la vérité de soi n'a pas lieu d'être reconnu dans le domaine sociopolitique. Et il y a bien là quelque chose qui est à la fois adressé comme l'a dit Pierre, aux grands, et adressé à ceux qui leur obéissent. Et je pense que cette théorie des grandeurs, c'est-à-dire, pour moi, cette pensée des ordres est fondamentale, non pas de l'ordre, mais des ordres. Mmh. Elle est fondamentale, et c'est elle qui permet justement de constituer l'idée selon laquelle il faut garder son quant à soi, et aussi l'idée selon laquelle la politique, ça c'est vrai, je veux dire, moi je partage ce point de vue, la politique ne sauvera pas les hommes.
Ça alors qu'est-ce qui va nous sauver, Gérard Thérèse ?
Mais rien.
Ok.
Non, pas rien, non.
Enfin, je veux dire, on peut peut-être aménager, on peut ordonner, on peut améliorer.
Mais déjà...
Mais quant à la nature des choses... On ne peut pas attendre.
C'est là où il y a une forme de résignation.
On peut attendre des choses de l'éthique, oui. Du comportement du sujet. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, c'est présent cette distance par rapport aux différentes fonctions et aux différentes qualités que l'on a. Ne pas s'identifier aux qualités et ne pas violer au nom d'une qualité une autre, un autre ordre. Donc, il y a bien une façon de construire un vivre ensemble.
Oui, ça, je ne crois pas tellement.
Mais ce n'est pas un vivre ensemble. C'est pas un vivre ensemble. J'écris beaucoup actuellement sur la critique de la radicalité. Eh bien, Pascal est un penseur contre la radicalité de ceux qui pensent qu'on peut établir la justice sur Terre. Oui. Et on peut ne pas être croyant et le penser.
Oui, voilà. Pierre Guénon, ça, vous allez réagir sur deux choses. C'est déjà, on peut être sauvé, selon vous?
Oui, bien sûr. Voilà. Je l'espère, en tout cas.
Voilà.
Oui.
Et sur le vivre ensemble, c'est moins votre tasse de thé.
Non, ça, je ne pense pas que la pensée de Pascal soit une pensée du vivre ensemble. D'abord, je pense que la pensée du vivre ensemble n'est pas vraiment une pensée. C'est quelque chose d'assez mou, d'assez...
Pas chez Pascal.
Mais je ne crois pas qu'il y ait une pensée du vivre ensemble. Il y a une pensée, malgré tout, de la vérité. C'est pour ça, quand vous dites tout à l'heure, et vous le dites plusieurs fois, c'est cynique, c'est la résignation. Non, moi, je crois que c'est de la lucidité plus que de la résignation. Et au fond, vous dites, bon, on n'avance pas. Oui, d'une certaine manière, mais la conscience de soi, prendre conscience de soi, prendre conscience de sa relativité, prendre conscience de sa vacuité quelquefois aussi, prendre conscience de soi, d'une certaine manière, c'est déjà se déprendre justement de l'image et de l'idole du moi. Et c'est de ça dont Pascal veut persuader les grands, c'est qu'ils sont dans leur image. Ils sont complètement abîmés dans l'image d'eux-mêmes. Et c'est de ça dont il faut les faire sortir pour qu'ils aient un rôle, une fonction, et qu'ils ne se prennent pas pour du réel, en un sens. Et donc, d'une certaine manière, c'est une déréalisation de la vie politique. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit une pensée du vivre ensemble. Je crois que c'est beaucoup plus une pensée de la lucidité. C'est un devoir de lucidité et de conscience.
Gérald Suez, et après on va écouter le dernier texte. Allez-y.
Oui, je voulais simplement dire que je suis comme toi, je partage la plus grande défiance vis-à-vis de l'expression de vivre ensemble. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des propositions de société, selon moi, dans la pensée de Pascal, à condition d'abandonner lucidement l'idée d'une société parfaitement juste ou qui pourrait, par progression, parvenir à la justice.
Bien sûr.
Et donc, de ce point de vue-là...
Parce qu'on a tendance à penser que pour changer les choses, il faudrait être radical, il faudrait qu'il y ait une parfaite transparence et coïncidence entre ce qu'on pense, entre la justice naturelle, entre le monde dans lequel on vit. Et c'est vrai que Pascal nous oblige à nous déprendre de cette coïncidence totale. Et c'est une idée qui peut être difficile à avaler, qu'on peut trouver aussi suspecte, et vous l'avez dit Pierre Guénon, voilà, d'une forme de résignation ou de lâcheté ou d'accommodement.
Je ne dis pas que c'est forcément mal, mais
on peut s'interroger sur ça. C'est pour ça que j'ai voulu replacer aussi Pascal dans le contexte politique.
Mais vous savez, la lucidité, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas où ça va et jusqu'où ça peut aller. Et je pense que la lucidité pascalienne, elle peut avoir des effets qui ne sont absolument pas, justement, pensés et conçus par Pascal et qui le dépassent d'une certaine manière. Je crois que c'est d'une certaine manière, ce texte, d'une certaine manière, dépasse la pensée de Pascal. Dépasse au sens positif du terme, c'est-à-dire va beaucoup plus loin que Pascal aurait voulu qu'il aille.
D'où la révolution après, d'où d'ailleurs la reprise dans les années 60.
À mon sens, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que le jansénisme a favorisé le terrain pour une contestation radicale des privilèges.
« on ne s'imagine, Platon et Aristote, qu'avec de grandes robes de pédants. C'étaient des gens honnêtes, et comme les autres, riant avec leurs amis. Et quand ils se sont divertis à faire leurs lois et leurs politiques, ils l'ont fait en se jouant. C'était la partie la moins philosophe et la moins sérieuse de leur vie. La plus philosophe était de vivre simplement et tranquillement. S'ils ont écrit de politique, c'était comme pour régler un hôpital de fous. Et s'ils ont fait semblant d'en parler comme d'une grande chose, c'est qu'ils savaient que les fous à qui ils parlaient pensaient être rois et empereurs. Ils entrent dans leurs principes pour modérer leur folie au moins mal qu'il se peut.
Il nous reste peu de temps pour commenter ce fragment incroyable, le 533, mais oui, des éditions La Fuma. S'ils ont écrit de politique, donc Platon et Aristote, c'était comme pour régler un hôpital de fous. Ce fragment est incroyable. Cette dernière question, peut-être pour conclure, à quel moment, selon Pascal, et est-ce qu'il le dit, faut-il alors ne plus accepter de vivre dans un hôpital de fous? À quel moment, quand il y a tyrannie, faut-il agir? Est-ce qu'on la repère? Comment on se mobilise? Est-ce que Pascal donne une réponse à ça, Pierre Guénantia?
Oui, une réponse, en forme de sortie. C'est-à-dire qu'il convient justement de voir que ce qu'on prend pour quelque chose de tout à fait normal, etc., c'est un hôpital de fous. Alors, on ne va pas rendre les fous moins fous ou autre chose que fous. On va simplement circonscrire le périmètre dans lequel ils sont et dire, voilà, bon, ça c'est de la folie. Mais c'est une folie qu'on doit accepter. Mais c'est toujours pareil.
Seulement.
C'est un différentiel. La pensée de Pascal, c'est une pensée différentielle. C'est pour ça qu'il dit, les fous à qui il paraît penser être roi et empereur. Mais ça, c'est quelque chose de magnifique, parce que ce qu'il met en avant, si vous voulez, c'est l'adhésion par rapport à une fonction ou à un rôle. C'est que les gens s'y croient. Vous voyez, c'est ça. C'est ce que dit Lacan. Le fou, c'est celui qui pense traditionnellement être un roi. Il dit, mais il n'y a plus fou. Hein. C'est le roi qui pense qu'il est roi, justement. Hein. Et là, au fond, c'est exactement ça. C'est penser qu'on est quelque chose. Au lieu d'accepter d'une certaine manière le passage, la facticité et la labilité d'une certaine manière de l'existence humaine.
Alors Gérald Suez, sur cette question, à quel moment on se rend compte que le roi se prend pour un roi et à quel moment on agit? Est-ce que ça Pascal nous le dit?
Non.
Très rapidement, en 30 secondes. Pierre Guénantia, arrêtez de dire non là dans le fond. La parole est à Gérald.
Oui, je pense que c'est au moment où la tyrannie est évidente. C'est un conseil universel pour tout mode d'action, mais il me semble que si ce texte qui est magnifique est très fort, inscrit l'idée de la nécessité de ne pas attendre du politique la justice inscrit au fond une pensée positive du moindre mal. Je termine sur ça,
oui,
parce qu'à mon avis, c'est ce qu'il y a de proche entre Pascal et Machiavel. Et ni l'un ni l'autre n'étaient des penseurs cyniques. Maintenant, en effet, et je termine sur ça, délégitimer l'ordre tel qu'il s'est travesti de légitimité, c'est ouvrir la voie, comme a très bien dit Pierre, à la révolution et à la mise en question. C'est-à-dire qu'il donne un argument qui est compréhensible des habiles, mais qui est totalement dangereux.
Qui n'est pas contrôlable.
Qui n'est pas contrôlable.
Oui.
Oh, I told you if you walked out on me, we were through. And you told me that it couldn't matter less to you. You turned me down for someone who wouldn't turn a hand for you. There's no justice in this world anymore. There's no justice in this world anymore. Sometimes I ask myself, what am I living for? If wrong can triumph over right, if we are
Ça passe beaucoup trop vite. Merci à vous deux, Pierre Guénantia et Gérald Sfez. Pierre Guénantia, de vous, on peut lire L'homme sans moi, essai sur l'identité aux éditions PUF sur Pascal, divertissement pascalien aux éditions Hermann. De vous, Gérald Sfez, on peut lire Lumière de temps sombre, Orwell Canetti. Comment dit-on ? Siacha ?
Siacha.
Siacha, aux éditions Hermann et sur Pascal, Raison d'État aux éditions Beauchesne. Et maintenant, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Le fil philo.
Toi, tu es toujours pressé. Une phrase anodine, lancée par un ami animé des meilleures intentions, mais vous ne le prenez pas bien du tout. Moi, pressé, vous n'êtes pas de cet avis, vous n'avez pas cette impression, et vous subissez comme un reproche ce qui n'en était pas un. Avouer, reconnaître, n'est jamais spontané. C'est comme s'il fallait céder, renoncer. Pourquoi est-ce donc si difficile ? Saint Augustin avait la réponse il y a 16 siècles de cela. Nous voulons tout savoir, sauf la vérité sur nous-mêmes. C'est le constat ferme et simple que ce philosophe né en Algérie au IVe siècle formule dans ses Confessions. Et le message n'a rien perdu de son actualité. Cette remarque vous concernant, toi, tu es toujours pressé, vient écorner l'image que vous avez forgée de vous-même. Vous êtes soudain comme face à un miroir. Et c'est désagréable. Parce que tous, nous nous mentons à nous-mêmes. Ou alors, si nous reconnaissons nos torts et nos défauts, nous nous trouvons presque immédiatement des excuses. Je suis peut-être toujours pressé, mais j'ai tellement à faire, moi. Vous transformez ainsi la sincérité des autres en critique pour mieux la rejeter. Mais pourquoi faire un ennemi de ton ami qui annonce la vérité ? Demande saint Augustin. C'est pourtant la vérité seule qui vous permettrait de mieux vous connaître, de prendre plus lucidement vos décisions et de mener une vie davantage accordée à celui ou celle que vous êtes vraiment. Or, constate Augustin, vous vous mentez sans cesse à vous-même. Voilà, oui, voilà l'esprit humain, déclare-t-il, et il poursuit. Aveugle, mélancolique, indécent, il veut se cacher à lui-même, mais il veut que rien ne lui soit caché. Avoir le courage de faire la vérité sur vous-même, vous avouer vos travers et difficultés, représente l'unique moyen d'être en paix, de trouver la sérénité. Parce que cela vous permet de ne plus être tourmenté par le désir impossible d'être un autre que vous-même. Vous vous acceptez tel que vous êtes, ni plus mal, ni moins bien que vous n'êtes. Vous vous mettez ainsi à l'abri d'une trop vive susceptibilité, comme aussi d'une fausse culpabilité, celle qui naît de la peur de ne pas plaire, de ne pas être accepté. Vous savez quelle est votre vérité, c'est-à-dire, selon la perspective d'Augustin, ce qui vous mène, ce que vous aimez le plus, ce qui motive fondamentalement vos actes. Car vous tromper sur vous, c'est vous tromper aussi sur le sens de votre existence. C'est comme vivre à côté de votre vie, loin de vous-même. Pourquoi alors, à la suite d'Augustin, ne pas tenter de passer aux aveux, sans complaisance, avec honnêteté ? Cela vous mènera, à coup sûr, à connaître vos désirs les plus authentiques et les plus profonds. Et c'est déjà beaucoup.
Merci beaucoup Laurence de Villers. Mille excuses, c'était bien vous Laurence de Villers dans le fil philo. Et merci à toute l'équipe, Carla Michel, Axel Dubois, Anna Fulpin, Antoine Ravon, Nassim El Kabli, Corinne Amar et Luna Hajla, à la réalisation et à la lecture des textes Nicolas Berger, à la prise de son d'Ali Yaha. Pour retrouver toutes les émissions, rendez-vous sur le site et l'application Radio France.